innovante, la biofabrication consiste en l'étude et la fabrication de systèmes vivants. Les recherches dans ce domaine nous permettent, par exemple, de créer ou de rendre plus facilement accessibles des vaccins ou d'autres médicaments essentiels. Dans les prochaines décennies, les avancées technologiques dans ce secteur seront profitables à l'ensemble de notre société. Ces avancées pourraient nous permettre de nous préparer à une prochaine pandémie, de faire face aux urgences sanitaires ou encore de répondre aux priorités ciblées en matière de santé. Bien au fait de l'importance de faire avancer la recherche appliquée dans ce domaine, la Fondation Huguette et Jean-Louis Fontaine a récemment choisi de soutenir un fonds pour la valorisation des inventions en biofabrication pour le domaine médical à l'Université de Sherbrooke. Ce fonds soutient les étudiantes et étudiants de la Faculté de génie de l'Université de Sherbrooke qui souhaitent prendre la voie de l'entrepreneuriat dans ce domaine. Aujourd'hui, je rencontre trois personnes qui viendront démystifier la biofabrication et parler de ce nouveau fonds d'amorçage. Patrick Vermette, professeur titulaire à la Faculté de génie et responsable du laboratoire de bio-ingénierie et biophysique de l'Université de Sherbrooke. Bonjour Patrick!
Hey, bonjour, bonjour!
J'ai également avec moi Sylvie Fontaine, vice-présidente de la Fondation Huguette et Jean-Louis Fontaine. Bonjour.
Bonjour.
Et puis j'ai avec moi Mathieu Adams, étudiant de maîtrise en génie chimique à l'Université de Sherbrooke, qui a lancé le projet Regenix Biotechnologie. Ce projet se concentre sur la fabrication à grande échelle de tissus et d'organes artificiels dont il nous parlera. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Donc, tout d'abord, Patrick, vous êtes un expert en biofabrication ainsi que dans le développement et la validation de biomatériaux pour répondre aux besoins médicaux. J'ai commencé ce balado-là en expliquant brièvement ce que c'est la biofabrication. Par contre, on est plusieurs là, non-initiés à la biofabrication, donc j'aimerais savoir plus précisément, là, dans vos mots, c'est quoi la biofabrication?
Comme tu l'as dit, c'est production de cellules, tous leurs sous-produits, donc protéines, enzymes, anticorps, pour des fins pratiques. Biofabrication, c'est pas la composante recherche, c'est vraiment la composante de mise à l'échelle, c'est-à-dire d'être capable de produire en quantité puis en qualité la molécule ou les cellules qui nous intéressent. Donc, il y a différents types de produits de type qu'on peut appeler commodité, style levure de bière, levure pour faire le pain, des enzymes, exemple de nettoyage. Puis tu as des produits un peu plus de spécialité, donc on peut penser aux anticorps monoclonaux qui sont utilisés pour traiter des pathologies complexes, les nouvelles thérapies cellulaires industrialisées, là, le CAR T-cell, les TIL. Donc, ouais, c'est ça.
Pourquoi c'est important dans notre société, la biofabrication?
La biofabrication amène pratiquement une infinité de possibilités, je veux dire, parce qu'on utilise je sais pas si c'est le bon terme, la puissance que l'évolution, finalement, des milliards d'années d'évolution, donc ce que la vie, les différentes formes de vie, donc différents micro-organismes, différents types de cellules qui sont capables de produire des choses, en fait, de toutes formes, de toutes sortes. On est capable aussi de reprogrammer, maintenant avec la biologie synthétique, de reprogrammer des cellules. Donc, c'est pratiquement une infinité de possibilités de ce qu'on peut produire. Donc, ça va apporter, en fait, les années à venir, vraiment des nouvelles façons de penser, des technologies beaucoup plus vertes, en fait. Donc, remplacer des procédés qui sont plus polluants, procédés chimiques, des produits chimiques par des bioproduits, en fait. Donc, tant en termes de produits qui vont être plus verts, mais aussi des produits qui peuvent avoir une plus grande performance, une beaucoup plus grande spécificité, en fait.
Puis, là, je le rappelle, vous êtes professeur à l'Université de Sherbrooke. Et je me demandais comment est née l'idée de créer le fonds d'amorçage et de valorisation en biofabrication pour le domaine médical?
Écoute, si on remonte là, vraiment l'idée, ça remonte quand même d'un certain nombre d'années quand un étudiant m'avait contacté, puis il voulait amener un de ses projets dans un des cours que je donne. Et puis, pour être bien honnête, initialement, j'étais un petit peu froid à l'idée, puis bon, il était quand même assez insistant, puis ben finalement, je lui ai permis de le faire, puis c'était la première, vraiment, la première initiative là, qui a permis de réaliser, premièrement, que les étudiants sont hyper créatifs, puis de mettre à profit cette créativité-là, ça, c'était extraordinaire. Il y a beaucoup d'autres étudiants qui ont embarqué là-dedans, puis après ça, ça leur permettait d'amener des fois des idées qu'ils avaient, d'autres fois des idées finalement que moi j'amenais à travers finalement un réseau, par exemple, de ce que moi j'appelle les end users, donc des utilisateurs finaux. Donc, ils sont capables d'identifier des unmet needs, donc des besoins qui sont non comblés, puis dire, ben, si on avait ça, on répondrait à un besoin qui serait important, puis êtes-vous capable de faire ça? Puis beaucoup de projets, finalement, qui ont été développés dans les cours, en fait, sont nés un peu comme ça. Donc, à travers, des fois, tantôt des utilisateurs finaux, mais aussi des fois des étudiants qui ont amené leur propre idée, puis avec le réseau de contacts, finalement, avec des dépendants de l'application. On parle ici du réseau, on parle d'applications pour la santé, mais il y a tout l'aspect environnemental. Donc, grosso modo, la biofabrication a un rôle important à jouer tant au niveau de l'environnement, au niveau de tout ce qui est l'agroalimentaire et finalement, bien entendu, la santé.
Puis par curiosité, c'était quoi ce premier projet-là qui a fait naître l'idée?
C'était une formulation pour produire des spores bactériens pour faire des genres de bio-engrais.
Et quel impact là, ce fonds-là d'amorçage va avoir sur les étudiantes et étudiants qui souhaitent innover en biofabrication?
Ah, écoute, immense, immense l'impact qu'il est. Depuis qu'on amène cette façon de faire-là, qui est la notion entrepreneuriale, déjà de permettre très rapidement aux étudiants de voir les notions clés, de les mettre à profit dans un projet vraiment hyper appliqué qui est leur projet. Donc, ils vont être un porteur de ballon. C'est pas juste tout le temps le prof, mais vraiment l'étudiant qui devient porteur de ballon. Donc, voir les choses importantes, les affaires clés, puis de mettre l'accent là-dessus parce qu'ils voient à travers leur projet. Donc, ça, c'est un impact qui est absolument, absolument incroyable. De corréler aussi toutes les notions. On est quand même ingénieur. Un rôle important, c'est d'être capable de corréler l'aspect technique au monde industriel, aux besoins. Il y a un client à quelque part. Quand on développe un produit, un service, il faut avoir cette notion-là. Donc, de le voir, de le mettre à profit rapidement à travers des cours, parce qu'on parle d'étudiants au bac, là, souvent, qui commencent ces projets-là. Donc, ça, c'est phénoménal d'amener la notion technique à vraiment dire, t'es un ingénieur, ton rôle est de l'amener à des hautes échelles, donc de faire un transfert d'échelle, donc d'adresser un besoin qui est réel dans la société. Toute la notion innovation, j'ai toujours été pour moi, un ingénieur doit être une personne qui construit, qui fabrique. À mon avis, ça ne doit pas rester sur papier. Donc, d'amener cette notion-là de vraiment to make it,
Quelque chose de vraiment concret, là, aussi dans les études.
concret, mais le faire, fabriquer, c'est-à-dire j'ai besoin d'un prototype, je veux voir quelque chose. Sur papier, je suis capable de construire n'importe quelle usine parce que je ne verrai jamais les risques. Quand je le fais, on va parler tout à l'heure du projet de Matthew, donc quand on le fait, on le voit, les défis techniques, on voit tous ces défis-là parce qu'on le fait, on le sort du papier, on essaie de le concevoir, de le construire. Puis une des choses importantes qui sort, c'est un point de vue personnel, toute la notion de résilience, on s'entend ici, ça, pour arriver à des projets comme ceux-là, des projets ambitieux comme ce que Matthew fait, ça prend un lot of hard work, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, puis d'une résilience absolument incroyable. Donc, de développer cet aspect-là, c'est un impact qui est absolument incroyable. Donc, d'investir dans les étudiants, je dis tout le temps, it's a people-based project, puis c'est absolument incroyable l'impact.
On va pouvoir revenir sur ces sujets-là avec Mathieu un peu plus tard, mais avant, j'en viens à vous, Sylvie, Madame Fontaine de la Fondation Huguette et Jean-Louis Fontaine, qui porte le nom d'ailleurs de vos parents et dont vous êtes la vice-présidente et une donatrice de longue date là, de l'Université de Sherbrooke et de sa faculté de génie. Vous avez également contribué à titre personnel au fonds d'amorçage et de valorisation en biofabrication dans le domaine médical. Je voulais savoir pourquoi vous avez pris la décision de vous impliquer dans ce fonds-là plus précisément.
Parce que c'est un secteur avec un grand potentiel de croissance, en particulier avec l'émergence de nouvelles technologies telles que l'impression 3D de tissus et d'organes. Ça va nous conduire à de nouvelles avancées dans le traitement des maladies, la régénération des tissus, les soins de santé personnalisés avec la production de médicaments personnalisé.
Ce que je trouve intéressant, c'est surtout dans
la situation du domaine médical, du système de santé actuel, comment ce genre d'initiative-là pourrait vraiment changer la donne au Québec. Donc, d'investir dans la biofabrication, ça doit être vraiment valorisant, là, puis motivant.
C'est d'appuyer ces développements-là de notre façon. On n'est pas scientifique. Alors, on veut appuyer les étudiants qui ont tous les savoirs et pour... C'est la génération future qui va nous sauver, sans doute, pour vieillir en santé.
C'est ça.
C'est ça qui est important.
Pourquoi l'avancement des technologies dans le secteur médical, c'est important pour vous, mais aussi pour la Fondation?
L'avancement technologique dans le secteur médical, c'est crucial. Cela permet d'améliorer les diagnostics de façon plus précise, de donner des traitements et de soins de santé personnalisés. Alors là, on n'aura plus un médicament qui fait à tout le monde, puis que ça donne des effets néfastes, des problèmes de santé. Ils vont faire des produits personnalisés, ce qui va amener à réduire les souffrances des patients s'ils sont malades à cause du médicament qu'ils ont reçu. Puis du même coup, ça va améliorer l'efficacité des interventions médicales. Ça va prendre moins de temps et ça va être plus précis. On va préciser ce que le patient a besoin. Donc, on met le patient au centre de l'équation. C'est ça le but.
Mais dans le fond, pour chaque patient, avoir une réponse personnalisée, puis là, Mathieu, je vois que tu hoches de la tête, là, mais d'avoir une réponse plus personnalisée aux besoins de tous et chacun, dans le fond.
Oui, moi, la médecine personnalisée, c'est vraiment quelque chose que je tiens vraiment à cœur. Comme Sylvie a dit, il n'y a pas deux personnes qui vont répondre de la même manière à un médicament. Il y a des effets secondaires pour, mettons, Patrick, Sylvie, moi, on ne va pas répondre de la même manière aux médicaments nécessairement. Fait que c'est pour ça que la médecine personnalisée, moi, je pense que c'est... Ben, en tout cas, il y a beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent qui est investi dans ce domaine-là. Fait que c'est pour ça que... En tout cas, moi, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que j'ai démarré le projet Regenex Biotech. Mais c'est ça, Sylvie, je pense que...
Je pense que c'est l'avenir. C'est l'avenir. On va voir une nouvelle ère dans la santé qui va faire... On est une population qui vieillit et puis on veut vieillir en santé. Et ça, cette technologie-là et tout l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies vont nous permettre de vivre mieux. Il faut s'en servir.
Mais c'est motivant pour l'avenir de vous entendre comme ça. J'aimerais aussi savoir, Sylvie, pourquoi c'est important pour vous de soutenir les personnes étudiantes dans leurs projets de recherche et dans leurs aspirations de se lancer en entrepreneuriat? Donc, on a parlé là, beaucoup avec Patrick de l'importance de l'entrepreneuriat pour les étudiants, mais ça fait partie du fonds et de votre don, là, au fond, ce soutien-là.
Mais enfin, la mission de notre fondation, c'est de soutenir la santé, l'éducation, l'entrepreneurship, partir des startups avec ça, puis toute activité qui sont relevant de la bienfaisance, c'est pour la société, quelque chose de meilleur pour la société. Alors, ce projet-là, c'est fantastique, ça l'englobe le tout. Fait que c'était parfait pour nous. Et ma mère, on a construit un studio de création à l'Université de Sherbrooke, qui porte le nom Fondation Huguette et Jean-Louis Fontaine, et ma mère avait inscrit un slogan pour que les gens, lorsqu'ils rentrent dans le studio, ils voient du rêve à la réalisation. Pas du rêve à la réalité, du rêve, tu rentres avec ton rêve et tu viens à l'intérieur le réaliser. C'est la réalisation. Alors, on voulait que ce studio de création-là soit l'endroit où sortira des grandes découvertes dans le but d'amener un bien-être pour la société. Puis c'est primordial de tirer profit du savoir de nos étudiants en génie et que ceux-ci mettent leur ingéniosité au service de la santé, comme Mathieu va le faire. Puis pour ce faire, il faut mettre l'emphase sur la recherche, leur donner les moyens aux chercheurs pour bien comprendre les virus, dans le cas qu'on parlait du COVID, par exemple, ou trouver des solutions qu'on puisse vivre vieux, en santé, physiquement et mentalement. Alors, ça rejoint le but de notre fondation, d'aider les étudiants en génie à travailler en partenariat avec les autres facultés pour en ressortir des jeunes entrepreneurs et leur offrir le soutien qu'il leur faut et les moyens de leurs ambitions.
Matthew Adams, ton projet de recherche a été récompensé par une bourse de la Fondation Huguette et Jean-Louis Fontaine. Mais j'aimerais ça savoir, ça vient d'où ça, cet intérêt pour la biofabrication, puis pourquoi tu as décidé de poursuivre ta maîtrise là, en génie chimique pour développer un projet dans ce domaine-là?
En fait, moi, en sortant du cégep, je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Fait que moi, je savais que j'étais bon en mathématiques. Je me dis, m'en vais en génie mécanique. Puis là, après un an, je me dis, on dirait que c'est pas vraiment mon domaine. Tu sais, je savais que j'avais un intérêt pour la biologie, puis j'étais même pas au courant de la biofabrication ou de la génie biotechnologique. Mais à ce moment-là, j'ai décidé de faire la transition vers le génie biotech. Puis c'est à partir de ce moment-là que là, je me sentais vraiment à ma place. Puis là, je vais peut-être paraître un peu têteux, là, mais Patrick, dans ses cours, il met beaucoup d'emphase sur le end user, l'utilisateur final. C'est quoi le réel besoin? Tu sais, c'est bien beau faire un produit ou un projet, mais si personne va l'utiliser, personne va l'acheter, ça sert à rien. C'est plate comme ça. Puis en même temps, avec la fondation, les bourses, ben là, ça m'a vraiment permis de... OK, je pense que le timing est bon. Je vais me lancer. J'ai une idée. Je suis allé parler avec Patrick à son bureau à un moment donné. J'ai parlé un peu de la problématique que j'envisageais. Puis là, Pat, il a dit, OK, let's go. On va le faire. Comme Pat dit, on veut un prototype. Let's make it work. Puis là, on a juste tout combiné ensemble. Puis après un an, je suis ici. Puis mon projet, je te dirais qu'il avance quand même bien.
Puis le projet, on parle de projet d'entreprise de Regenix Biotechnologie. C'est quoi concrètement?
Je dirais que aujourd'hui, il y a une pénurie d'organes pour la transplantation d'organes. La liste augmente d'année en année. Il y a plusieurs facteurs qui contribuent à ça. Le plus grand, c'est un manque de donneurs d'organes. L'offre ne répond pas à la demande. Il y a aussi l'incapacité à préserver les organes en vie pendant la durée de la transplantation ou aussi les transporter. T'sais, on ne va pas transporter, par exemple, un cœur de Vancouver à Québec. C'est juste trop de temps, la durée entre les opérations. Donc là, je suis allé voir Patrick à son bureau, puis là, j'ai commencé à parler de cette problématique de pénurie d'organes. Puis je me disais, on serait-tu capable de fabriquer des tuyaux, des organes artificiels pour répondre à ce besoin? Donc vraiment, trouver une solution qu'on pourrait faire directement en laboratoire pour bypasser tous les problèmes de transport ou de viabilité ou même d'incompatibilité. Donc on prendrait vraiment des cellules du patient pour éviter toutes ces problématiques-là. Puis c'est ça, là ça fait environ un an que notre objectif principal, c'est de développer une technologie universelle qui permettra aux chercheurs et chercheuses de fabriquer des tuyaux et des organes artificiels à grande échelle. Ici, à grande échelle, on a vraiment deux significations. La première étant qu'on veut être capable de répondre à la demande, donc vraiment de rendre la technologie accessible au plus grand nombre de patients pour qu'ils puissent en bénéficier. La deuxième, c'est vraiment au niveau de la taille et des dimensions du tissu et de l'organe qu'on veut fabriquer. En ce moment, la majorité des groupes de recherche se concentrent vraiment à l'échelle du micro ou du millimètre. On s'entend que ce n'est pas très pertinent pour la transplantation d'organes, c'est trop petit. C'est pour ça que nous, on a décidé de faire un saut quand même assez significatif vers l'échelle du centimètre. Là, on commence à rentrer dans un territoire assez intéressant pour la transplantation d'organes. Mais évidemment, il y a une raison pourquoi on ne s'est pas rendu là de suite ou pourquoi il n'y a pas d'autres groupes de recherche qui s'attaquent à ça. C'est qu'il y a des gros obstacles assez importants, c'est assez complexe comme défi. Mais au cours de la dernière année, on a développé une technologie qui nous permet de surmonter la majorité de ces obstacles. Donc, on est vraiment content. Puis là, en ce moment, on est vraiment dans la phase de validation. Donc, juste confirmer nos hypothèses, confirmer nos avancements. Mais ouais, en gros, si je peux résumer, Regenix, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment une plateforme qui englobe l'ensemble du processus de fabrication de tissus et d'organes artificiels. Donc, de la conception 3D à l'ordinateur, à l'assemblage, la fabrication des tissus et aussi la maturation des tissus. Ce que je veux dire par maturation, c'est vraiment un coup qu'on a un tissu. Évidemment, on a nos cellules en vie, mais il faut garder ces cellules-là en vie. Donc, il faut leur donner des nutriments, de l'oxygène, s'assurer que ces cellules-là peuvent être viables, être contentes, confortables, mais aussi de proliférer, donc occuper tout l'espace du tissu pour obtenir un tissu vivant puis fonctionnel.
J'aimerais ça revenir. Mathieu, tu parlais des défis qui empêchaient de se rendre au centimètre dont vous avez fait face. J'aimerais ça savoir pour le commun des mortels, là, si c'est assez clair, ce serait quoi ces défis-là auxquels tu as fait face?
En fait, je te dirais le plus grand problème, c'est vraiment nourrir nos cellules correctement. Donc, mettons la règle de pouce, c'est vraiment l'oxygène ou les nutriments, un coup qu'ils sont dans la structure, ils vont diffuser à environ 200-300 micromètres de profondeur. Donc là, c'est ça, là on est limité à des micromètres, des millimètres. Fait que c'est pour ça que nous, si on veut arriver à l'échelle du centimètre, il faut être capable de créer un réseau de perfusion. Un réseau de perfusion, c'est par exemple les veines, les artères autour du corps. Tu sais, ça va partout dans le corps. T'sais, ça vient nourrir nos cellules. Fait que nous, on essaie vraiment de répliquer ce que la nature fait déjà, mais c'est un grand défi technologique. La technologie est là, les méthodes de fabrication sont là, mais c'est aussi une question de OK, c'est quelle les bonnes, comment on peut les assembler, les intégrer l'un dans l'autre. Fait que c'est de tout mettre ça en place, le défi. Puis c'est ça, je pense que...
Puis c'est là que la question de coût aussi, j'imagine, entre en ligne de compte.
Oui, bien là, c'est ça. T'sais, évidemment, si on voudrait être capable de produire, par exemple, un tissu artificiel, mais si ça finit par coûter 500 000 le tissu, on s'entend qu'il n'y a aucun gagnant, c'est pas win-win. Fait que c'est pour ça que nous, en même temps, on s'est vraiment donné comme objectif, il faut réduire les coûts au maximum. T'sais, on ne veut pas empêcher notre développement, mais c'est ça, on veut rendre la technologie accessible. On veut démocratiser ce qu'on essaie de faire pour profiter au plus grand nombre de patients.
Je t'écoutais, Mathieu. Je pense que c'est ça. Quand tu veux voir si ça coûte moins cher, tu fais appel avec d'autres gens de la faculté d'administration ou qui vont venir t'aider à faire les calculs ou...
Comme tu dis, j'ai pas vraiment de background en finance ou en gestion, mais veux pas, au cours de notre parcours en génie à l'Université de Sherbrooke, on a plusieurs stages. J'ai fait deux stages qui étaient un peu plus en gestion. Fait que j'ai appris quand même sur le terrain comment ça fonctionnait, comment bien gérer nos affaires pour rendre ça le plus efficace possible. Puis, évidemment, la collaboration entre les facultés est super importante. Comme nous, comme Patrick disait, nous, notre job d'ingénieur, c'est de rendre, mettons, une idée sur papier puis la rendre réalisable. Mais, justement, le côté plus biologique, médical, on n'a pas le choix de collaborer avec des chercheurs spécifiques, des experts, des médecins. Fait que c'est pour ça, c'est une super de belle collaboration, tout ça. Puis la plateforme qu'on essaie de faire, c'est aussi de la collaboration entre les différents génies. Je veux pas, tu sais, nous, on a des aspects de génie électrique, génie informatique, génie mécanique. Fait que c'est vraiment une question de mettre tout ça ensemble. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est un projet super... Bien, c'est super ambitieux, mais c'est vraiment cool dans le sens j'apprends des choses à tous les jours aussi, là. Fait que c'est pour ça, moi, je trouve ça vraiment passionnant.
Ça vient vraiment faire ce qu'on avait au départ, ce qu'on voulait. Lorsqu'on a créé le studio de création, c'était de leur donner un bâtiment qui était sécuritaire avec tous les outils nécessaires, puis avoir les professeurs pour les mentorer, pour justement leur donner tout ce qu'il fallait pour pouvoir sortir des inventions, des projets, là, des beaux projets là, futurs qui vont venir nous aider. Et puis l'idée de ça, c'était que ce studio-là était là pour... Pas seulement pour le génie, mais pour toutes les facultés sur le campus de l'Université de Sherbrooke, parce que les ingénieurs, ils font des projets magnifiques, ils sont ingénieux, mais c'est important qu'ils mettent leur service, leur génie pour la société. Donc, regardez, c'est quoi les enjeux de la société en ce moment? Les enjeux, c'est la santé des gens. On vieillit. Alors, c'est fun parce que cet endroit-là, les gens viennent ensemble. Ils peuvent discuter de quels sont les enjeux, puis là, trouver des solutions. Puis là, l'ingénieur pense à des stratégies, le médecin peut venir travailler ensemble. Après ça, il faut qu'il fasse un start-up, une entreprise avec ça. Et puis là, ils peuvent se retourner vers la faculté de droit pour le légal pour l'entreprise, la faculté d'administration, de marketing pour mettre ça beau, sexy, le produit, si c'est un prototype quelconque ou c'est juste pour les aider à aller chercher du financement. Puis nous, on est là maintenant, vu que la bâtisse est construite, tout ça, la deuxième étape, et c'est des soutenir dans la recherche, parce que c'est beau, là, on leur a offert la bâtisse, les outils, ils ont les professeurs, tout ça, mais il faut continuer, il faut aider. C'est phénoménal, quand tu vas à l'Université de Sherbrooke, tu vois des gens comme Mathieu, sont allumés, le savoir qu'ils ont, c'est incroyable. Ils ont peur de rien. Puis quand tu as peur, tu n'avances pas, puis eux, ils avancent. Alors, il faut les soutenir, les pousser pour justement qu'ils sortent des beaux produits, de développer des sortes de choses intéressantes pour nous.
Mais dans le fond, j'imagine que c'est un peu ça l'avantage d'avoir, de recevoir une bourse là, du Fonds d'amorçage et de valorisation en biofabrication dans le domaine médical, c'est que tu peux te concentrer sur ne pas avoir peur et essayer des choses au lieu de se concentrer sur le domaine financier, là.
C'est sûr, grâce à la Fondation Fontaine, j'ai pu me concentrer sur la technologie dans le sens que si je ne l'avais pas eu, j'aurais sûrement rempli d'autres candidatures, essayé de fouiller pour d'autres opportunités. Mais grâce à la Fondation Fontaine, j'ai vraiment pu mettre 100% de mes efforts, mes énergies juste sur le développement de nos technologies. Je veux pas, une maîtrise, c'est juste 2 ans. Fait que je veux pas, moi, je suis en mode accéléré dans le sens où il faut dérisquer le projet, la technologie le plus vite possible. Puis c'est un peu grâce à la Fondation Fontaine que j'ai pu faire ça.
Ça permet aussi à l'entrepreneur de prendre les bonnes décisions. Donc, il est protégé, j'appelle le terme protégé dans cet environnement-là. Donc, on peut prendre, parce qu'on lui enlève une pression financière pendant un certain temps à cause des bourses, ça lui permet de prendre des bonnes décisions. Ces premières décisions-là sont hyper importantes, de bien les prendre. Ça peut faire la différence entre être le start-up qui va réussir sur 10 versus les 9 autres qui ne vont pas réussir. Donc, de prendre dès le départ les bonnes décisions, un environnement absolument stimulant, c'est pas pour rien aujourd'hui que je porte mon chandail de la faculté de génie. C'est un environnement absolument stimulant, comme Sylvie l'a mentionné tout à l'heure. Donc, we can do almost everything. À peu près tout ce qui peut être fait, on peut le faire. Donc,
Puis là, on parle de soutien financier, mais il y a aussi un accompagnement des professeurs avec les étudiants. Comment vous accompagnez les étudiants là, dans les défis qu'on a mentionnés un peu plus tôt avec Mathieu?
Bien, coaching, je me vois beaucoup comme un entraîneur, un coach, en fait. Donc, ça fait quand même un certain nombre d'années. Là. Ça fait bientôt, ça fait 22 ans que je suis prof, déjà 25 ans que je travaille dans le secteur. Donc, d'amener une vue d'ensemble, d'un point de vue très technique aussi, des fois, très, très technique. Donc, ingénierie, mais aussi amener vers... Je suis aussi entrepreneur moi-même. J'aime beaucoup, on a plusieurs maintenant projets entrepreneuriaux. Donc, amener toute la notion justement de start-up, la notion de développer un business. OK? Donc, si on veut qu'on ait du succès, il faut avoir cette approche-là en tête. Donc, production, avoir le signe de dollar en tête. Qu'est-ce que ça implique d'industrialiser finalement le produit qu'on a? Donc, c'est très différent un produit comme Matt développe versus une production, par exemple, d'un anticorps monoclonal. La notion de propriété intellectuelle, d'amener les entrepreneurs à réaliser comme importante. C'est finalement la propriété intellectuelle. Amener aussi d'une base personnelle les gens à se dépasser. Je pense que c'est quelque chose vraiment important pour accomplir des projets ambitieux de même. Ça demande de stretcher finalement, d'amener à un autre niveau les personnes. C'est pas tout le monde qui sont capables de le faire, donc les individus qui sont capables de le faire, donc des amener à se dépasser. Le développement, c'est une base individuelle, personnelle. En fait, c'est une chose sur laquelle je mise beaucoup. Donc,
Mais je pense que l'université les encadre bien. Ils sont bien formés. Il y a des cours d'entrepreneurship qui vous aident à... C'est comme un incubateur un peu pour les former puis les préparer pour justement être capable de voler leurs propres ailes. Puis on essaie de faire du mieux là, pour ça.
Merci à vous trois pour votre participation. Maintenant, on comprend mieux quelles sont les retombées du domaine de la biofabrication sur notre société. C'est important d'encourager des initiatives comme le Fonds d'amorçage pour propulser ces recherches encore plus loin. Merci.
Merci. Merci.